Bonjour à tous, bienvenue sur Direct en jeu. Alors, nous sommes près de Chamonix, au Lavancher. Alors, c'est un endroit que je ne connaissais pas. On est au milieu de la nature, on voit Chamonix au loin. Et là, j'ai une baie vitrée splendide devant moi. Je suis dans une suite, et oui, j'ai beaucoup de chance, baroque, au chalet de Philippe. Et j'ai Philippe à côté de moi, qui est un homme absolument adorable, charmant, qui habite ici depuis... Alors, depuis combien de temps, Philippe ?
Alors, je suis arrivé ici en 83.
L'année de ma naissance. C'est pour ça, Philippe, c'était une très bonne année. Et donc, juste avant, donc, vous aviez découvert cet endroit, mais alors, vous nous avez raconté que vous n'aviez même pas visité, que vous avez dit, j'achète. Alors, à l'époque, ça devait pas être cher, du coup.
Non, c'était pas cher. C'était 1000 mètres carrés de terrain. Et dessus, il y avait un chalet des années 60. Mais je l'ai même pas visité. C'est l'emplacement qui m'a séduit. Et puis, pourquoi je suis passé... Avec ma voiture, je ne sais pas non plus. J'ai vu cette petite route qui montait au Lavancher alors que je descendais à Montpellier, donc ce n'était pas du tout ma route. Et la curiosité m'a incité à prendre cette petite route de montagne et qui m'a amené ici. Il y avait une pancarte avec écrit « à vendre » et un numéro de téléphone. En 83, à l'année de votre naissance, il n'y avait pas de téléphone portable. Et je suis allé à la cabine de téléphone. J'ai appelé, je suis tombé sur une agence. J'ai demandé le prix et j'ai tout de suite dit à la dame de l'agence, j'arrive dans 10 minutes, préparez les papiers. Je descends à Chamonix, vous réglez, vous faire le chèque d'acompte. Effectivement, elle m'a dit, mais vous visitez pas, vous voulez pas que je monte, il y a un petit chalet. J'ai dit, non, ce qui me plaît, c'est l'endroit et une belle lumière, il y avait des plaques de neige encore, on était en avril, et je suis allé régler le chèque, et la dame m'a regardé quand même un peu ébahi, et après, c'était il y a 40 ans, mais je l'ai croisée souvent dans Chamonix ces dernières années, maintenant je pense qu'elle avait la cinquantaine il y a 40 ans, donc je ne la vois plus, donc elle a dû disparaître, ça fait partie de la vie. Mais à chaque fois que je la croisais, elle marchait avec une canne ces derniers temps, et à chaque fois qu'elle me voyait, elle riait, parce qu'elle me disait, j'ai vendu dans ma vie à l'agence Carlton, agence immobilière de Chamonix, 250 chalets, 500 appartements, 700 studios, vous êtes le seul Philippe qui avait acheté sans visiter, et ça la faisait beaucoup rire. Et elle me dit, maintenant quand je vois ce que vous avez fait, un petit hameau de chalet, de 9 chalets, elle me dit, vous avez bien fait. Voilà, je crois que j'ai bien fait.
Ah ben ça c'est sûr, c'était sûrement effectivement le destin. Et puis alors moi je suis comme vous, effectivement. Mon premier appartement à l'époque, je l'ai acheté aussi. Je venais de rentrer dans l'entrée de l'appartement. J'ai regardé à gauche et à droite et j'ai dit je prends. Et donc mon papa était à côté de moi ce jour-là, bon, parce que j'avais 27 ans.
Ça tombe bien.
Et non, mon papa m'a regardé et presque devenu blanc, a failli s'évanouir. Parce qu'en plus, bon, c'était dans une zone un peu au-dessus de Paris que je ne citerai pas, mais qui n'est pas la zone la plus fréquentable. Et donc il n'était quand même pas ravi. Mais moi j'étais ravi. J'ai vécu 7 ans et j'étais très contente. Ouais. Voilà, comme quoi il faut suivre évidemment son instinct. Ouais. Et vous aviez raison, puisque effectivement ici, c'est le petit paradis sur Terre qu'on n'a plus envie de quitter. Donc, on a donc 9 chalets qui sont donc totalement différents les uns des autres, que vous avez en fait chinés finalement. Puisque alors, c'est quand même assez exceptionnel. On est donc sur un terrain, on aurait pu se dire que vous avez construit tous ces chalets. Maintenant, vous avez trouvé des chalets donc, qui étaient ailleurs, que vous avez donc démonté un chalet. Comme ça, un petit chalet, on l'a su, donc grâce à vous, se démonte à peu près sur 2 jours. Donc c'est quand même assez rapide. Ensuite, ça se remonte sur combien de jours, Philippe ?
Alors oui, effectivement, des masos, des chalets qui font 4 mètres sur 4, hein, et qui ont sur 1, 2 ou 3 étages, effectivement, se démontent sur 2 jours, 2 jours et demi, et ils se remontent sur... peut-être pareil d'ailleurs, sur 3-4 jours, mais après, il faut faire les fondations. Il faut faire les fondations, préparer le terrain, il faut amener l'électricité, il faut amener l'eau parce qu'on est en pleine nature. Après, il faut mettre l'électricité, faire tous les fluides, faire les doublages, faire l'isolation. Et là, il y en a pour 4 mois.
D'accord. Et alors, ce que vous nous disiez aussi, donc effectivement, tous les objets qu'on voit, tous les meubles, vous les aviez avant d'avoir le chalet. Donc d'abord, il y a le contenu et ensuite, hop, on met le chalet autour et tout est chiné. Et alors, où est-ce qu'on trouve effectivement tous ces objets qui sont donc des objets qui sont donc traditionnels de la culture de la montagne ? Vous dites ça comment ?
Alors, bon, c'est du mobilier. Nous, on parle de mobilier alpin.
Ouais, c'est ça.
Et d'objets d'art et traditions populaires, et des peintres de la montagne, il y en a eu beaucoup, des aquarellistes de la montagne, et les premiers d'ailleurs qui ont découvert la vallée de Chamonix et qui l'ont fait connaître, ce sont les Anglais. Ils venaient faire des gravures et des dessins des glaciers, des glacières, et ils ont découvert Chamonix, et c'est eux qui ont finalement lancé, un peu comme la promenade des Anglais à Nice, c'est eux qui ont lancé Chamonix. C'était eux les aventuriers au 19e siècle.
Mmh. Et du coup, vous les chinez où, tous ces meubles, tous ces objets ?
Alors, j'ai commencé par les brocantes, les antiquaires, et maintenant j'achète aussi souvent sur Internet. J'ai mis des alertes mobilier alpin, peintre de la montagne, tout ce qui touche, j'ai mis les mots-clés sur Interenchères, sur Katawaki, sur Drouot. Et finalement, petit à petit, j'ai des alertes à peu près chez tous les commissaires-priseurs de France. Et dès qu'il y a une table de berger, une tablette, un meuble de montagne ou une armoirette, tout cela, je suis le premier informé et je peux faire la surenchère maintenant sur l'écran. Alors qu'avant, il y a aussi les antiquaires. Il y a aussi les antiquaires qui savent qu'ils font le go-between, le lien entre deux collectionneurs. Un collectionneur veut se séparer d'un coffre de mariage, du Keras, par exemple, et il sait qu'il y en a un autre qui lui manque, ce coffre de mariage du Keras, il les met en contact. Mais maintenant, trouver chez les antiquaires et les brocanteurs de jolis meubles de montagne, c'est de plus en plus difficile. C'est vraiment de plus en plus difficile. Alors, il y a le salon de l'Antiquité d'Annecy qui a lieu tous les derniers samedis du mois, où on peut trouver encore, des fois, une croix de Savoie, des fois, voilà. C'est des tableaux et des objets d'art. Il y a encore quelques antiquaires bien placés en Haute-Savoie, mais ça devient vraiment très compliqué parce que il n'y en a plus. Voilà, c'est simple. Alors, il y a aussi le Keras, qui est un gros fournisseur de mobilier alpin, de meubles sculptés, là, ou avec des rouelles, avec des rosaces, et qui sont gravées. Ça, c'est encore un endroit où on en trouve un peu. En Maurienne, on trouve aussi quelque chose, quelques meubles, et en Tarentaise, moins. Mais dans toutes ces vallées des Alpes, il reste encore un ou deux antiquaires qui sont toujours à la recherche dans les fermes les plus éloignées d'objets aussi de fermiers, comme les barattes, comme les râteaux, comme les fourches, comme des tas d'objets utilitaires. C'était la civilisation du bois. Donc on peut retrouver des presses fromage aussi en bois. On peut retrouver, pour essorer le linge, des objets en bois. Voilà. Donc ça, c'est du travail de tous les jours. Mais moi, je vois avec le temps qu'il y en a, il y a de moins en moins, c'est devenu très très rare, et les prix montent avec la rareté. C'est ça le problème aussi.
Bien sûr. Et quels sont les objets alors que vous préférez chiner ? Est-ce que vous avez des coups de cœur ? Enfin, des coups de cœur, évidemment, pour quasiment chaque objet, j'imagine, mais est-ce que vous faites une collection ? J'en sais rien. Par exemple, ici, dans la suite baroque, bien sûr, ce sont les anges qui sont beaucoup mis en avant, mais est-ce que j'en sais rien, est-ce que par exemple vous avez une préférence pour les miroirs par exemple, ou pour les tables, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous passionne plus que d'autres objets parmi tout ce que vous chinez ?
Oui, actuellement je suis bien à la recherche de l'iclos de berger et de tables de berger. En fait, les chalets les masos sont des petits chalets, donc les petits meubles, les armoirettes par exemple, oui. Ça, je suis toujours à la recherche d'armoirettes, de l'iclos de berger, et ça, c'est des choses qui sont, et des tables de berger, c'est des choses qui sont très utiles dans des locaux assez étroits, vous voyez. Voilà. Mmh.
Justement, donc vos chalets, effectivement, ce qui plaît beaucoup quand on arrive, souvent la porte est toute petite, on se baisse, et on a l'impression d'arriver dans un autre monde, le monde, je ne sais pas, des lutins, des fées, effectivement, on en a parlé, on a eu une conteuse la première soirée, c'était très sympathique. Donc on n'est pas du tout dans de l'hôtellerie classique, luxueuse, alors certes, mais luxueuse différemment, par la rareté déjà, par l'originalité, par le fait que c'est vous, effectivement, qui êtes là, qui recevez quasiment, je crois, chacun des personnes, en fait, chacune des personnes qui viennent. Et du coup, est-ce que vous avez le temps, justement, de vous entretenir un petit peu avec chaque personne? Comment ça se passe quand quelqu'un arrive, effectivement, bon, quelqu'un de chez vous s'occupe de la personne, oui. l'emmène à son chalet. Oui. Est-ce que vous arrivez à, voilà, à voir chacune des personnes qui logent chez vous?
Alors oui, c'est vrai qu'ils passent la porte, comme vous dites, ces petites portes. Alors, c'est des portes en chapeau de gendarme. Voilà, c'est le terme exact, mm-hmm. c'est des portes en chapeau de gendarme. Alors là, je fais un peu... Alors, franchement, je fais un peu mon choix.
D'accord.
Quand je vois des clients, j'aime pas le mot client, mais des hôtes sympathiques qui dînent à l'une des deux tables d'hôtes, je suis ravi. Alors, je choisis la table d'hôtes où il y a les gens les plus sympas, les plus intéressants.
Qui vous inspire le plus?
Qui m'inspire le plus. J'y vais à l'intuition, là. Des fois, je peux me tromper, mais bon. Et j'adore, comme je dîne tous les soirs avec les clients, alors il y a aussi des tables où les gens, ils sont tête à tête, hein, parce qu'ils fêtent un anniversaire, etc. Mais ce qui est drôle, c'est que souvent, il y a des gens au début qui prennent des tables pour deux personnes, mais comme au bout d'un moment, je sais pas, ils ont peut-être plus rien à se dire, et ils voient qu'on s'amuse beaucoup à la table d'hôte et qu'on échange, ils viennent nous retrouver au dessert. Ça, c'est très amusant pour boire un coup de Genepi. Et puis, finalement, les soirées se terminent souvent très très tard. Des gens qui se connaissaient pas se racontent leur vie jusqu'à 2h du matin. Et ça, c'est vraiment enrichissant. C'est le sens du partage que j'aime beaucoup. Et certes, comme vous dites, c'est un établissement luxueux, le Chez Philippe, mais c'est un luxe simple. Le luxe peut être simple. On n'est pas obligé. J'ai pas mis le personnel n'est pas en tenue siglée. Chacun s'habille comme il veut. Et je mise surtout sur la gentillesse. Et les gens ont besoin de gentillesse et d'amour, bien sûr. Donc voilà, c'est une ambiance qui est très particulière. On est loin de tout ici. Donc, enfin, loin de tout. On a 10 minutes de Chamonix Centre. Mais on a l'impression d'être loin de tout.
Et puis on a limite même pas envie d'aller à Chamonix, alors que avant d'arriver ici, je me suis dit, bon, chouette, je vais enfin découvrir Chamonix, on va aller se balader et peut-être qu'on va effectivement le faire tout à l'heure. Ouais. Et c'est très bien. Mais le voir Chamonix de loin et être dans ce cocon, aller se balader juste effectivement autour des chalets, découvrir les différents chalets, ce qui est un plaisir aussi. Ça, effectivement, si tout le monde avait cette chance, ça serait formidable. Mais bien sûr, c'est techniquement malheureusement pas possible, mais c'est pour ça que les gens reviennent et peut-être ouais. se disent aussi, tiens, j'ai découvert tel chalet, je suis resté, je sais pas, deux nuits dans le chalet, voilà, dans ce chalet-là, mais j'aimerais bien voir l'autre aussi. Effectivement, c'est toujours une nouvelle découverte, un autre esprit, un autre univers. Et si on pouvait effectivement tous les faire, ça serait assez chouette.
C'est vrai aussi que beaucoup de nos hôtes sont déshabitués. Ils reviennent et ils changent de chalet à chaque fois. Puis il y a aussi ceux qui ne reviennent pas parce que tout simplement, je leur demande de ne pas revenir. Je leur envoie un email. Il y a aussi des clients qui se comportent des fois mal, qui sont méchants avec le personnel. Ça remonte à mes oreilles. Parce qu'avec moi, ils sont toujours, ils tiennent un peu garde à vous, entre guillemets, ils font attention. Mais moi, je sais qu'ils se sont mal tenus et qu'ils ont été méchants. Et il m'est arrivé plusieurs fois d'écrire à des clients en leur demandant de ne plus revenir. Alors là, ils m'assassinent sur TripAdvisor, mais je ne lis même pas. Et eux et tous leurs amis et toute leur famille, mais ce n'est pas grave. Quelque part, il vaut mieux une bonne ambiance dans le hameau avec des gens gentils, qui s'aiment bien et où il y a un certain bonheur de vivre. Vous savez, un couple ou une personne qui est désagréable, elle peut contaminer tout le hameau, hein, avec où elle devient infernale, cette personne. Donc là, j'ai la chance de pouvoir sélectionner même mes hôtes. Et il y a ceux que je ne veux pas revoir, je leur écris, j'en demande, je ne suis pas méchamment, j'en demande de ne plus revenir, tout simplement. Alors, voilà. Mais ceci dit, ça se passe très bien et je vis avec mon équipe et des hôtes charmants en général. C'est ça le bonheur de vivre.
Oui, et puis le bonheur du partage, le bonheur des rencontres. Enfin, oui, vous êtes, oui. Grâce à ça, d'ailleurs, ça vous fait aussi voyager. Vous qui avez beaucoup voyagé dans votre vie, entre guillemets, d'avant. Avant, vous étiez, donc vous nous avez raconté, dans la musique, beaucoup dans la production, etc. Donc vous aviez une vie très très riche. Effectivement, sur le moment, quand vous vous êtes installé ici, vous vous êtes quand même posé la question, bon, je change totalement de vie, je vais un peu, sur le moment, peut-être m'enfermer dans quelque chose, ne plus trop sortir, parce que ça prend un temps fou ici. Évidemment, ça prend toute votre énergie, mais vous êtes totalement dédié à ce lieu qui est votre maison, votre petit paradis. Mais effectivement, pour ça, effectivement, il faut bien s'entourer. Et pour bien s'entourer, il faut aimer les gens, leur offrir ce qu'il faut, effectivement, pour qu'ils soient heureux. Et puis, ils vous le donnent en retour, en fait. C'est ça qui est chouette. Et donc, du coup, oui, vous amusez tous les jours, en fait, Philippe.
C'est une passion. Il y a des fois, c'est des grosses journées. Hein. Le téléphone sonne à 8h le matin, je me couche à 1h ou 2h du matin. Donc, je ne dors pas beaucoup, mais à mon âge, on n'a pas besoin de trop dormir non plus. Et c'est vrai que vous parliez de partage, de découverte des gens qui viennent du monde entier. C'est passionnant. J'ai plus besoin, effectivement, de voyager. Ça tombe bien, parce que j'ai peur de l'avion.
Oui, vous nous avez raconté, effectivement, une anecdote assez horrible, en effet. Il valait mieux ne pas être dans cet avion-là, c'est sûr. Et alors, on va parler un petit peu de votre gastronomie, qui est vraiment exceptionnelle. On m'avait dit que l'étape des chalets de Philippe était très bonne. Mais là, je dois dire, moi qui souvent découvre des très jolies tables en France, là, j'étais excessivement, agréablement surprise. Votre chef, donc, qui est un Bulgare, qui est là depuis 3 ans, c'est ça ?
Oui, il est là depuis 3 ans. Il est d'origine bulgare. Il a travaillé dans pas mal d'endroits avant de venir à Chamonix aux tables de Philippe. Oui, c'est les tables de Philippe. Mmh. Il travaillait en Suisse, à côté de Verbier. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil. On parle de gentillesse, mais là aussi, c'est rare parce que quand même, ça fait 20 ans que je suis dans l'hôtel de restauration, même un peu plus. Je peux vous dire que quand il y a un coup de feu en cuisine, ça s'énerve des fois. Mm-hmm. Les casseroles volent et tout. Lui, je ne l'ai jamais vu s'énerver. Même seul, faire 30 ou 40 couverts, ça lui est déjà arrivé, mais il est très bien organisé et surtout, il fait ses préparations longtemps en avance. Il fait ses huiles lui-même, l'huile de persil, vous voyez, et il a son petit potager avec ses herbes aromatiques. C'est quelqu'un de passionné aussi, et comme moi, il est un passionné. Alors moi, c'est plutôt l'architecture, le mobilier alpin, les objets d'art, lui, et les rencontres, moi. Lui, il est plus timide un peu, mais il est venu, hein, il est venu dans la salle dire bonjour et tout, et il a un très bon second de cuisine, d'ailleurs, Guillaume Lebet, qui est très très gentil aussi. Et le troisième de cuisine, ben alors il est bloqué, lui, en Argentine, parce qu'il a du mal à obtenir le visa pour revenir travailler en France. Mais ceci dit, on a une clientèle qui vient aussi uniquement manger chez nous. Si vous voulez, il n'y a pas que les clients qui sont dans l'hôtel, dans les chalets de l'hôtel. Il y a des clients qui sont intéressés uniquement pour venir dîner à la table. Ce qui fait que ça prouve que le bouche-à-oreille est bon sur sa cuisine et que si les gens de l'extérieur, entre guillemets, viennent, ça lui donne raison. Il est content d'avoir aussi cette clientèle-là. Et je lui souhaite, honnêtement, il mérite une étoile Michelin. Hein, si on devait...
Je suis d'accord, oui, tout à fait.
Franchement, quand je dis une, peut-être même deux, on ne sait pas. Mais bon, on ne court pas après. Vous avez vu qu'on n'est pas sur...
Oui, c'est des distinctions. Enfin, finalement, on s'en fiche totalement, ouais. En effet. Et ce qui est chouette, effectivement, c'est que quand on s'y connaît un petit peu, quand on a l'habitude des bonnes tables, quand on découvre une table comme celle-là, dans un cadre en plus totalement enchanteresque, eh bien, on est plus que ravis. Parce que souvent, le problème avec les étoiles, c'est que donc on attend quelque chose. On attend que, oui, c'est une étoile Michelin, bon, ça va être bien. C'est 2 étoiles, oh là, ça va être super. 3 étoiles, ça va être génial. Eh ben non, des fois, les 3 étoiles, c'est pas terrible.
On peut être déçu.
Voilà. Alors que là, effectivement, on part sans savoir à quoi s'attendre.
Ouais.
On se dit même à la limite, bon, c'est une table gastronomique, mais peut-être, enfin, vous voyez, on ne sait pas trop quoi en fait. Et en fait, la créativité qu'il a, la finesse, l'originalité, enfin, est exceptionnelle, le goût est génial, enfin, tout est vraiment superbe. Et donc, on sort de là avec une expérience qu'on n'a vraiment pas du tout eue ailleurs. Et puis avec ce côté, effectivement, table d'hôte, avec ce partage, avec cette... chaleur humaine qu'on n'a pas ailleurs non plus, puisque malheureusement, souvent, les étoilés, il y a un côté effectivement très surfait, très classe, très...
Vais même vous dire guindé, voilà. Obséquieux parfois.
Ouais, oui,
on vous regarde de haut.
Tout à fait. Il faut être très bien habillé, etc.
Et puis quelquefois, vous dînez... Moi, j'ai des amis qui ont des restaurants étoilés. Je leur dis, tu devrais dire, par exemple... à ton personnel ou à tes sommeliers. Alors, par exemple, j'ai eu ça. J'aime beaucoup la sommellerie, hein, c'est pas ça. Mais il faut savoir, il faut qu'ils gardent un peu les distances. Parce qu'on a l'impression qu'on est écouté pendant tout le repas. Mmh. Le verre est à moitié bu, qu'on nous le fait déborder. Et puis alors, vous voyez ce que je veux dire ? Mmh. Ils sont en alerte sur les clients à tel point que c'en est pesant.
Absolument.
Et c'est pas méchant ce que je dis, mais ils ont tellement peur de pas être à la hauteur et de peur de leur troisième étoile, leur deuxième étoile, qu'il y a presque une pression sur le client où on se sent cerné. Je sais pas si vous avez remarqué ça dans les grands restaurants. Et voilà. Alors il y a aussi le défaut de certains qui nous prennent un peu de haut. Ça c'est. Si, par exemple, tu te trompes sur une année ou sur un millésime, quelquefois, on te fait remarquer que tu n'es pas à la hauteur. Il faut faire attention à tout ça. Ça ne sert à rien de la ramener, entre guillemets. Et voilà. Bon, maintenant, on ferme la parenthèse, parce qu'il y a de très, très bons aussi restaurants étoilés où les personnels sont gentils et gardent ses distances avec les clients.
Tout à fait. En tout cas, vous avez trouvé donc une perle par rapport à votre chef, comme pour le reste de votre personnel. Et alors, dernier petit point, puisqu'après, on va vous laisser, parce que votre téléphone a quand même sonné 3 fois, alors certes, en silencieux, mais je sens que le maire est peut-être en train de vous appeler, donc d'ici 2 minutes, on va s'arrêter. Est-ce que vous pouvez nous dire, Philippe, quelles sont les 2-3 petites choses super sympas à faire à côté d'ici ? Donc, on a fait une balade qui était vraiment géniale, qui était le col comment ?
Alors, il y a le col des Montets, le col de la Forcla pour aller vers la Suisse.
Ah oui, c'est ça.
Et le col du Grand Saint-Bernard pour aller vers l'Italie, du Petit Saint-Bernard pour aller de l'Italie en France. Il y a le tunnel du Mont-Blanc pour aller à Courmayeur. Chamonix est au carrefour de 3 pays, la France, la Suisse qui est à 12 km et l'Italie qui est à 12 km, pareil.
D'accord, donc ça c'est question balade. Et sinon, question genre, si on devait faire une petite sortie culturelle, qu'est-ce que vous conseillez qui soit vraiment pas trop loin ?
Pas trop loin. Alors Chamonix, c'est vraiment la capitale mondiale du ski, de l'alpinisme, mais aussi des randonnées. Donc, il y a une course qui est mondialement connue, qui est l'Ultra Trail du Mont-Blanc. On fait le tour du massif du Mont-Blanc. Ça, il y a beaucoup d'Américains qui le font en 8 jours. La course avec les champions, ils le font en 24 heures. Il y a 11 000 mètres de dénivelé. Mais moi, ce que j'aime beaucoup l'été, c'est faire le grand balcon sud. On part du Brévent et on arrive jusqu'au lac Blanc. Mmh. Ça, c'est magnifique, je le conseille. Il y a une vallée perdue qui est magnifique, qui monte, qui est alors dans les Aiguilles Rouges, qui s'appelle la vallée de Bérard, qui est magnifique. Ça fait partie de mes promenades favorites. Et puis, il y a les champignons maintenant. Et on va chercher, alors, dans les forêts, à 1200, 1300 mètres, vous avez des chanterelles, ce qu'on appelle girolles dans le nord. Et puis, vous avez aussi des trompettes de la mort, vous avez des cèpes. Dans la chasse aux champignons, la cueillette aux champignons, c'est quelque chose de. Et puis il y a toujours la chasse, les produits de la chasse, que la chasse va ouvrir. Alors en Suisse, ils sont très friands de gibier, mais je ne suis pas contre, dans la mesure où on est envahi. La preuve, tous les soirs, on a des biches et des cerfs au pied. Il y a vraiment une énorme quantité de gibier. Alors on a réintroduit le loup, peut-être que ça va équilibrer, mais c'est vrai que les biches et les cerfs, les vers, ils souffrent parce qu'ils ne trouvent pas à manger, ils sont trop nombreux. Il y a peut-être un équilibre à trouver, soit par les loups, soit par les chasseurs, parce qu'il y a vraiment trop de gibier. C'est très curieux.
C'est fou.
Oui, mais c'est incroyable. Je peux vous dire qu'ils viennent dans les jardins potagers des maisons, à Chamonix même, quasiment à Chamonix passante, mais presque. Tous les gens qui ont des jardins avec des potagers sont obligés de se protéger, parce qu'ils sautent par-dessus, les gibiers sautent, les biches, les cerfs, les chevreuils viennent manger les salades dans les potagers. Donc il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, ça c'est le côté. Alors après, bon, ben, vous savez, il y a la vallée blanche à ski, il y a les grands montets pour faire aussi du très grand ski. Alors c'est les plus grands dénivelés, c'est la station de Chamonix, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis installé ici aussi, c'est que pour le ski, on oublie un peu les remontées mécaniques, parce qu'on arrive à 3500 mètres, 3600, 4000, que sais-je, et on arrive à 1000. Donc on appelle ça les intégrales. Donc quand vous êtes arrivé au sommet, et vous descendez jusque dans le fond de la vallée à ski, vous oubliez les remontées mécaniques, vous oubliez sans arrêt d'aller d'un télésiège à l'autre. C'est du très grand ski. C'est vrai qu'il y a beaucoup de noirs, mais il y a aussi des bleus, il y a aussi des rouges. Moi, c'est une exposition des pistes de ski pour la neige qui est exceptionnelle, parce que il y a notamment les fameux Grands Montais est exposé nord, et la neige, même en avril ou même début mai, reste poudreuse. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Avec le réchauffement climatique, on ne sait pas ce que ça va devenir, mais pour le moment, c'est encore très très bien. Puis il y a le parc Merlet, où il y a tous les animaux de la forêt qui sont rassemblés dans 50 hectares. Alors on se bouscule avec les animaux. On va aller visiter tout à l'heure le musée des cristaux, qui est une merveille.
Ah, ça c'est magnifique. On a hâte. Il y a
dans la vallée de Chamonix. Okay. Et enfin, il y a le musée alpin qui va rouvrir bientôt, qui est le plus grand musée alpin des Alpes.
Bon, bah, formidable. On va vous laisser, Philippe. De toute façon, on va déjeuner ensemble. Mais peut-être qu'on va déjeuner aussi avec monsieur le maire, qui sait. Mais il faut vite qu'on le rappelle.
Son adjoint chargé du patrimoine qui vient de m'appeler. Là, je vais le rappeler.
Exactement.
Ce qu'il voulait me dire. Ouais,
parce que là, ça fait quand même 3 fois qu'il essaie de vous appeler.
Et j'embrasse vos auditeurs.
Bah, en tout cas, merci 1000 fois, Philippe. Et puis, on aura un immense plaisir à revenir en famille, avec des amis. On va vous envoyer absolument toutes les personnes qu'on adore. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. À bientôt.
J'embrasse tous vos auditeurs.
Ça marche. Merci.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.